Toute prière dans la tradition chrétienne s'ouvre et se conclut par le signe de la croix. Cette croix, bientôt lue sur le cierge pascal avec ses lettres Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Étrange suggestion tout de même, certains diront morbide, insoutenable. Et cela, on peut le comprendre, que le signe qui nous initie dans notre foi évoque un objet de torture, un horrible instrument de supplice, qui du reste fut loin d'être unique, puisque au temps de Jésus, les croix ont été dressées par milliers au bord des routes et dans les cirques. Sans oublier toutes les machineries programmées hier et aujourd'hui pour dégrader l'homme au plus profond de sa chair, au plus bas de son esprit, et jusque dans l'intime de son âme. La croix vénérée par les chrétiens n'est pas un gibet d'infamie, l'instrument meurtrier qu'elle est, sans doute, mais le signe du plus grand amour jamais aussi librement consenti et offert par un homme pour tous les hommes. De sorte que saint Paul pourra écrire, c'est au terme de son épître aux Galates, pour moi, il n'y a pas d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Croix de gloire. Paradoxe. Scandaleux et provoquant. Impossible aujourd'hui d'évoquer le mystère de la croix sans laisser le regard de Jésus descendre en nous. Comment ne pas ressentir effroi et tristesse devant le déchaînement du mal et de souffrance que nous rapporte saint Jean dans son récit de la Passion. Et comment demeurerait-on insensible devant le traitement implacable et tellement injuste infligé à l'innocent? De ce mal, de cette souffrance, reconnaissons aussi qu'il nous arrive d'en être complices, parfois sans en être conscients, mais comme l'apôtre Pierre, sans presque le vouloir, par nos craintes, par notre égoïsme, par nos prétentions dérisoires, par nos batailles d'intérêts, de pouvoir, toute cette misère humaine en nous que nous n'entretenons que trop. Dans le récit de la Passion, ce n'est pas une fresque du passé que nous retraçons, c'est bien de notre monde, de notre vie, ici, actuelle, qu'il s'agit. Et c'est là que le mystère se dévoile et opère à cette heure où le déploiement du mal rencontre, en un duel prodigieux, comme dit la liturgie, le déploiement du plus grand amour. À travers son agonie, son procès, son silence, son martyre, c'est un espace tout nouveau que Jésus nous ouvre pour un passage, une Pâque, une entrée dans le royaume de son Père. Ce royaume qu'il inaugure pour nous du haut de la croix, en se tournant avec ses propres cris, ses prières d'hommes blessés, torturés, en notre nom, vers son Père. Jésus n'a jamais renoncé à vivre pleinement son humanité. Il a rencontré, exploré, partagé l'intensité du mal, de l'injustice, de la souffrance, plutôt que de se positionner en observateur, en juge du monde. Il a voulu regarder notre humanité d'en bas plutôt que d'en haut. Sa seule élévation fut celle de la croix, pour remettre en notre nom toutes nos détresses, toutes nos difficultés, nos souffrances, nos lâchetés, mais aussi notre confiance à son Père. Et c'est du fond de l'abîme qu'il se tourne vers ce Père, traversant la nuit la plus obscure, pour qu'elle ne se retourne pas sur nous, qu'elle ne nous enferme pas dans nos ténèbres, qu'elle ne nous englue pas dans l'angoisse, le mal et la mort, mais ouvre pour nous un chemin de lumière, un espace de vérité, de fraternité, de vie. De profundis, des profondeurs de l'humain, j'ai crié vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Selon ce que nous avons vécu ou vivons cette année, les deuils, les séparations, la maladie, la solidarité aussi avec ceux et celles qui souffrent, avec les isolés, avec la création en désarroi. Nous savons peut-être mieux ce que c'est que le sentiment de tomber dans un puits sans fond et de ne trouver aucune prise pour nous raccrocher. Impression de glisser, de se laisser glisser et de finir par consentir à la chute, tandis qu'un appel surgit du plus profond de nous-mêmes, avec la confiance que ce cri soit entendu. Peut-être alors ferons-nous l'expérience de percevoir, de recevoir l'Esprit de Jésus, ce souffle nouveau de vie, de sa vie. Ce souffle d'amour offert à l'univers tout entier et qui s'offre à nous pour nous permettre de continuer la route jusqu'au bout, envers et contre tout. Qu'une religion vénère son Dieu, quoi d'étonnant. Mais celui vers qui se tournent ce soir nos pensées, nos regards, celui vers qui tend toute la liturgie de la Pâque, celui que le Cantique des Cantiques chantait prophétiquement comme le plus beau des enfants des hommes, Jésus, à cette heure, son heure, n'a rien d'un Adonis ou d'un Apollon. Le prophète Isaïe l'avait entrevu, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne. Comment reconnaître le Verbe de Dieu dans ce corps lynché, cloué sur une croix, comme une chouette à la porte d'une grange, alors qu'il murmure « Tout est accompli ». Dans la préface de la messe de la nuit de Noël, le célébrant chantait « En lui, nous connaissons Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. Pouvait-on imaginer alors jusqu'où cette aventure de l'incarnation allait le conduire? Entraîné à aimer, comment est-ce possible devant le corps d'un innocent affreusement supplicié? Comment reconnaître ici le plus beau des enfants des hommes, l'image de Dieu, le sceau de son amour? C'est en tout homme, nous dit l'Écriture, que Dieu dépose, comme ce sceau, son image, sa ressemblance. Donc, en moi, en chacun de nous, mais nous l'avons peut-être oublié, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister? Il nous avertissait déjà par la bouche d'Isaïe, une femme oublie-t-elle son petit enfant? Eh bien, même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai jamais. Bouleversante confidence. Dieu ne peut pas nous oublier. Jésus est mort de nous avoir aimés jusqu'à l'extrême de l'amour. Il ajoute, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi est-il inscrit de façon si tenace au catalogue des idées reçues que le christianisme prêche le refus de la chair et par extension la méfiance du corps? Curieux contresens, entretenu au bénéfice de quelques prédicateurs de morale, alors que l'amour de Dieu se révèle à nous dans le plus intime, le plus charnel et dramatique des corps à corps, le baiser du total pardon. Comment oserions-nous, Après avoir entendu le récit de la Passion, détournez nos regards de tous les corps meurtris, malades, avilis, des cœurs blessés qui jonchent nos places et nos chemins. Comment oublier dans nos engagements, comme dans notre prière, celles et ceux qui aujourd'hui réellement ont faim et soif, dans leur chair comme dans leur esprit, celles et ceux qui sont nus, sans travail, les étrangers, les réfugiés, les exclus, les prisonniers, tous hommes et femmes revêtus de la même chair que le Verbe de Dieu. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour que vous ayez la vie. Que ces corps éprouvés, comme des esprits tourmentés, il me faut maintenant, à l'instar de ce voyageur de Samarie sur la route qui allait de Jérusalem à Jéricho, résolument m'approcher, les prendre dans mes bras, les porter sur mon cœur, prendre soin d'eux, veiller sur eux. Ce sont eux qui nous disent, en ce monde, la faiblesse consentie par Dieu pour venir à notre rencontre, la vulnérabilité de celui qui a pris le risque de se donner jusqu'à l'extrême d'aimer, pour nous entraîner avec lui, par le chemin de sa Pâque, vers ce royaume où lui-même essuiera, comme il le promet, toute larme de nos yeux, où il n'y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de cris. Celui qui vient à moi, promet Jésus, je ne le mettrai pas dehors. C'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Pour un brigand crucifié à ses côtés et qui suppliait Jésus, il actualise sa promesse. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et Bossuet aura ce commentaire magnifique. Aujourd'hui, quelle promptitude, avec moi, quelle compagnie, dans le paradis, quel séjour. À nu sur la croix, Dieu se révèle. Littéralement, il se dévoile. Il ôte tous ses vêtements. Il ôte tous les discours et les rites dont nous l'avons affublé avec nos disputes théologiques, nos crispations liturgiques, nos rigueurs canoniques et morales. Au Golgotha, tous les voiles des temples et des cénacles se déchirent du haut jusqu'en bas pour nous découvrir le corps de Dieu qu'il promet de rebâtir en 3 jours, son corps dans notre temps, qui est l'Église. Corps tout proche, mais qui se montre aussi bien inaccessible à toutes nos tentatives d'emprisonnement dans nos tombeaux. Ne me retiens pas, dira Jésus à Marie de Magdala. Et il l'avait annoncé déjà à une autre femme, l'ensorceleuse de Samarie. L'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais pour le présent, les passants, et nous sommes souvent du nombre, s'insurgent. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Et si tu avais été là, Seigneur? Et si Dieu existait? Et s'il était vraiment bon? Disons tout simplement, si j'étais à sa place. À l'heure de la croix, Jésus nous entraîne avec lui dans un inquiétant silence. Il nous appelle à descendre dans nos doutes, dans nos peurs, dans nos ruptures et nos trahisons. Car c'est dans ces profondeurs seulement, dépouillées de toutes nos certitudes, nos prétentions, que nous pouvons, en vérité, naître à la foi. L'heure de Jésus, l'heure de toute pauvreté, de la désappropriation de soi, devient l'heure de la suprême confiance, l'heure d'une nouvelle naissance. Mais prenons les choses dans l'ordre. Dans 2 jours, nous allons chanter la joyeuse nouvelle de Pâques. Mais pour l'heure présente, comme beaucoup de nos contemporains, nous ne comprenons rien à ce qui se passe. Et nous ne savons pas ce que ressusciter veut dire. Même si nous en avons entendu parler autrefois au catéchisme ayant l'honnêteté de reconnaître que nous ne savons pas, que nous ne comprenons toujours pas ce que cela peut bien vouloir dire. Peut-être n'y croyons-nous pas vraiment, car nous ne voyons pas encore à cette heure que le mystérieux passage de la Pâque débouche sur une bonne nouvelle. Qu'il y aura bientôt, au-dessus du vide du tombeau, un messager pour nous ouvrir les yeux et surtout nous ouvrir le cœur et nous inviter à nous avancer comme à tâtons sur le chemin de la résurrection.